Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, notre invité est une habituée de notre émission. Il s'agit de Nathalie Lévy, journaliste à BFM TV, à Europe 1 ces dernières années. Bonjour Nathalie Lévy.
Bonjour Jean, bonjour à vos auditeurs.
Très heureux de vous retrouver. Alors pour une fois, on ne va pas parler de télévision, même si on va l'évoquer peut-être à la fin de cet entretien. Vous avez donc sorti un ouvrage qui s'appelle « Courage au cœur et sac à dos » aux éditions du Rocher. Si je fais abstraction du bandeau, on croit que c'est un roman où ça ressemble pas tout à fait à ce que au sujet du livre.
Ah oui, c'est vrai, vous trouvez ?
Oui.
Bah écoutez, tant mieux, dans ce cas, tant mieux, si ça peut, si ça peut générer aussi d'autres évocations, je sais pas, écoutez, ça c'est votre ressenti. C'est vrai que le titre est assez littéraire, remarquez, vous avez raison. Après, voudrait-il un livre entre le témoignage et le document de société, je pense, parce qu'il y a quand même aussi une partie effectivement de recherche et de travail sur ce que c'est la condition aujourd'hui de nos aînés, des seniors, etc. Voilà, quant au titre...
C'est un témoignage ou un hommage, ou les deux ?
C'est les deux. Vous avez raison de me poser la question. En fait, au départ, quand j'écris ce livre, je cherche un moyen pour inscrire une empreinte, en fait, une empreinte indélébile de ma grand-mère dans un format, quel qu'il soit. Donc, à faire le plus beau soit-il. Ah. Et voilà, parce que j'ai effectivement une relation très particulière avec cette femme.
Alors on va y arriver, mais d'abord, on va peut-être donner le titre du bandeau. Prendre soin de ses aînés, c'est l'histoire, donc, vous l'avez dit, de votre grand-mère qui a vécu une vie assez spéciale. Il y a évidemment le déracinement de Alger à Paris, il y a le décès de son mari assez jeune et le fait de s'occuper de ses filles, en l'occurrence votre mère. Pour elle, déjà, quand elle devient grand-mère, elle a déjà une vie derrière elle qui est bien remplie, on va dire.
Oui, enfin, qui est pas simple, mais après, on n'est pas non plus dans... Enfin, bien sûr qu'elle a vécu une tragédie à 29 ans, c'est une femme veuve, avec deux enfants en bas âge, qui décide de pas refaire sa vie parce qu'elle se dédie entièrement à ses filles, qui effectivement est déracinée, qui quitte l'Algérie, où elle laisse évidemment toute une partie de son existence, mais bon, comme beaucoup, hein, comme beaucoup de pieds noirs au moment de l'indépendance de l'Algérie. Et donc, voilà, finalement, c'est assez banal. Vous savez, elle n'a pas été résistante, elle n'est pas rescapée des camps, elle n'a pas été inventrice ou quoi que ce soit. Mmh. Elle a une vie de femme un peu difficile, certes, voilà, elle reste malgré tout très entourée par sa famille. Mmh. Elle arrive avec sa famille en France, ses frères et sœurs, ses parents, et puis elle continue comme ça son existence. Après, ça génère aussi ce déracinement et puis ce veuvage. Ça génère chez elle sans doute aussi un repli, une forme de repli, et donc elle vit en fusion totale avec ses filles. Et puis nous, on arrive, ses petits-enfants, moi l'aîné de ses quatre petits-enfants, on arrive dans sa vie et je pense qu'il y a une forme de transfert aussi qui s'effectue.
Alors vous le dites dans le livre et vous l'expliquez beaucoup que votre grand-mère, Rosine, d'ailleurs, j'espère qu'elle va bien en ce moment.
J'étais avec elle il y a encore 3 minutes.
Voilà. Alors, votre grand-mère a été toujours très présente dans votre vie. Elle a été là pratiquement à tous les moments, même quand vous avez pris votre envol médiatique à BFM ou sur Radio J ou quand vous étiez reporter. Mmh. Quelle relation vous aviez au départ quand vous n'étiez que petite fille et pas encore aidant ?
Alors d'abord, je suis pas aidante, Jean. Je suis une petite fille aimante. Alors on m'a mise dans la catégorie aidante parce que l'actualité nous emmène vers ça aujourd'hui et que le sujet est devenu vraiment un sujet fondamental. Mais moi, je me considère pas du tout comme une aidante.
Bah, c'est ce qui est écrit dans la quatrième de couverture.
Non, c'est pas du tout ce qui est écrit dans la quatrième de couverture. C'est ce qui est considéré comme tel. Mais moi, je me revendique pas du tout comme aidante. Et je le dis d'ailleurs à mille et une reprises. Je suis une petite fille, une aimante, et non une aidante. Et d'ailleurs, j'ai pas cherché à faire certifier mon statut ou à toucher une quelconque aide que ce soit. On est dans un dispositif familial très naturel, une histoire de sororité, d'entraide entre femmes très évidente. Et les choses se sont mises en place d'abord parce qu'il y a un amour incommensurable et une grande fusion. Et voilà, après, effectivement, le grand H fait qu'il y a une grande part de logistique et qu'on s'installe dans une mécanique d'entraide. Mais si vous voulez, il n'y a rien de réfléchi.
Mais à quel moment il y a eu la bascule, c'est-à-dire de la petite fille aimante qui donne son amour à sa grand-mère jusqu'au fait où on va plus loin en l'aidant, justement, en l'aimant.
En fait, vous savez, j'ai une vingtaine d'années, elle me conduit encore avec sa mini dans Paris, on fait mille choses ensemble, et puis j'ai 25 ans, et là, finalement, c'est moi qui prends sa voiture, qui la conduit, qui l'emmène chez le médecin, qui l'emmène à droite, à gauche, faire trois courses, et puis les choses comme ça s'installe durablement là-dedans, et puis un peu plus de tâches quotidiennes, et puis un peu plus d'aide, en fait, pour ci ou pour ça. Et puis, clairement, à partir du moment où il y a un peu plus de 10 ans maintenant, elle a vraiment besoin d'être accompagnée pour préparer ses repas, etc. Et là, c'est vrai que je m'installe chez elle le matin. En tout cas, c'est vrai que je suis chez elle le matin pour travailler, parce que je travaille en horaire décalé à BFM et que le matin, j'ai un peu de latitude pendant que ma petite est à l'école. Et là, du coup, je m'organise et je suis chez elle le matin, je suis avec elle, on parle de l'actualité, on parle de la vie, on parle de la société et en même temps, je travaille et en même temps, je prépare mes affaires, etc., etc.
Alors, cette relation que vous l'avez expliqué, vous êtes souvent chez votre grand-mère. Est-ce que pour vous, d'aller chez votre grand-mère aussi souvent, c'est une drogue ?
Oui, exactement, c'est une drogue. Alors, c'est marrant parce que on m'a parlé jusqu'au boutisme, on m'a dit mais pourquoi vous continuez comme ça ? J'étais un peu dubitative quant à cette question. J'y vais parce que c'est de l'amour et parce qu'il y a une interaction intellectuelle, il y a quelque chose encore. Ouais. Donc oui, c'est une drogue, c'est exactement ça, vous avez raison Jean. On est dans une filiation bien sûr, mais on est dans une fusion, il y a un échange, il y a une complicité, il y a un accompagnement, et donc c'est des sentiments de l'amour, des dérivés, des sentiments périphériques, et quand on est là-dedans, ça se réfléchit pas en fait. On continue d'avancer avec cette relation et on n'a pas besoin de thésauriser le truc, c'est juste une relation d'amour et donc on continue, effectivement.
D'accord.
On continue et tant que ça nous remplit et tant que ça la remplit, eh ben on continue.
Alors, dans le livre, il y a des milliers d'exemples de relations que vous avez avec votre grand-mère. Franchement, il n'y a pas un moment où on en a un peu ras-le-bol, où on se dit, bon, tous les jours, refaire les mêmes choses, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on a un ras-le-bol de faire ça, non ?
Si. Ah, si, si, bien sûr.
Ça arrive.
Bien sûr, oui, ça arrive dans les moments où elle est plus impatiente, plus angoissée, plus fatiguée, plus irascible, plus agressive. Parce que, évidemment, les mots des personnes très âgées, ce sont aussi ça. C'est aussi parfois, vous savez, le film Tati Daniel, c'est aussi ça, c'est un peu... des moments où on est un peu plus acariâtre, comme on n'est pas dans la même temporalité, c'est très long les journées aussi passées à la maison avec une forme de confinement quelque part. Donc c'est difficile pour elle et nous on arrive avec notre sac à dos de la journée, fatiguée parfois, ou le matin pressée parce que j'ai des appels et qu'elle comprend pas nécessairement que je dois m'isoler pour appeler dans une autre pièce. Et donc oui, il y a des moments d'agacement, il y a des moments où on sature et c'est là où le rôle d'aidant. Alors, encore une fois, je me considère pas comme telle, mais pour les aidants qui sont souvent seuls à s'occuper d'une personne, d'un grand-père, d'une mère, d'un parent Alzheimer, tout ce que vous voulez, c'est très difficile quand il n'y a pas de rebond possible, quand il n'y a pas de bouffée d'oxygène, quand il n'y a pas un axe par ailleurs où on peut vraiment se vider la tête. Ça, c'est très compliqué.
Elles sont liées bien souvent et parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Y'a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où vont courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent de larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent, moi ma main je l'attends. Donne-moi ta main, gamin, et t'en prends la scène et nous ferons une ronde, une échelle. Donne-moi ta main, gamin, et t'en prends la scène, nous tournerons en rond, allez ma peine. Donne-moi ta main, donne-moi ta main, gamin, et nous tournerons en rond, allez ma peine. Parfois elles sont heureuses, parfois elles sont si seules. Quand elles sont baladeuses, tu les prends dans la gueule. Elles sont nues bien souvent, y'a des gens qui la gantent. On les met à couper, y'a des gens qui les demandent. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent de larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent, moi ta main, je l'attends. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne et nous ferons une ronde, une échelle. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne, nous tournerons en rond, allez ma peine. Donne-moi ta main, donne-moi ta main, gamin, et j'étais perdu, tu sais, comme toi, dans la peine, j'ai attendu que l'on prenne la mienne. D'une main tendue, tu sais, on peut faire des chaînes, et aujourd'hui, c'est moi qui prends la tienne. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne, et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main, gamin, et prends la sienne, nous tournerons en rond, allez ma peine. Donne-moi ta main, gamin, et donne-moi ta main, gamin, et nous tournerons en rond, allez ma peine.
Courage au cœur, au sac, au dos, c'est l'ouvrage Nathalie Lévy aux éditions du Rocher. Vous disiez que vous n'étiez pas tout seul, il y a votre mère et votre tante qui vous aident à vous occuper de votre grand-mère. Et dans cette idée, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, une sorte de saut de génération? Parce qu'on a l'impression que votre grand-mère vous considère comme au même niveau que votre mère. Il n'y a pas un,
ouais, c'est vrai.
Il y a pas
c'est
un souci?
Non, je sais pas si c'est un souci ou si c'est moi qui ai voulu ça, si c'est elle qui... Je sais pas. Toujours est-il que vous avez complètement raison, là encore. Bravo, Jean.
Merci.
Non, mais vous avez raison. C'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de chez moi. De moi à elle, je la considère un peu comme une sorte de troisième parent, ampliatif, hein, voilà. Et elle, je pense qu'effectivement, elle me considère comme sa troisième fille. Voilà, et vous avez raison aussi de mentionner ma mère et ma tante, parce que cette histoire intergénérationnelle, c'est une histoire de femmes, une histoire de sororité, d'entraide entre femmes. Et je suis pas seule dans ce dispositif-là, je suis même... voilà, on est complètement à part égale dans ce dispositif, dans cette mécanique de vie.
Mais justement, c'est justement cette part égale qui me dérange un peu. C'est-à-dire que finalement, votre mère et votre tante devraient avoir plus de place que la petite fille.
Ah, mais vous voulez dire dans le livre, bah, il aurait fallu qu'elle l'écrive alors.
Oui, non, mais non.
Après, si vous voulez, c'est mon prisme. Hein.
Oui,
alors. C'est mon prisme, je ne me suis pas mise en avant, simplement j'ai raconté une histoire d'amour qui est quand même un peu singulière dans la mesure où j'ai quand même, moi, une relation à elle et elle, une relation à moi qui est particulière. Et d'accord. Ça, toute la famille le dit toujours, les gens le savent. J'ai fêté mes 30 ans chez elle, c'est pas banal. J'ai passé tous mes étés avec elle quand j'étais plus jeune. J'y allais avant, après, quand la famille était là, mais moi, j'y allais toujours en amont et en aval. Si vous voulez, la relation qu'on a, elle et moi, elle est particulière.
Alors, Nathalie Lévy, vous l'avez dit à l'instant même, vous avez déposé ma question. Quand on écrit sur quelqu'un qu'on aime, quand on écrit sur quelqu'un où on vit avec elle, où on vit, il n'y a justement pas une écriture un peu spéciale, on va dire en exagérant dans le bon côté ou le mauvais côté? Est-ce que quand vous racontez cette histoire, on a l'impression des fois que c'est un roman? Mais est-ce qu'il y a un prisme spécial? Est-ce que vous avez mis votre cœur dans l'écriture?
Alors, j'ai mis d'abord beaucoup de temps à l'écrire, parce que c'est un livre, pour moi, qui était très compliqué. C'est quelque chose d'assez hybride, puisque c'est entre le témoignage et le livre de société, un peu l'essai de société. Donc, c'est très compliqué pour moi, d'abord parce que je me sens très impudique dans cette démarche, très immodeste. Et en même temps, je suis habitée par l'idée de vouloir laisser une empreinte éternelle, une empreinte indélébile de cette femme qui est le grand amour de ma vie, dont je ne sais pas comment je me remettrai de son départ. C'est quand même encore quelque chose que je ne peux pas anticiper, que je n'arrive pas à envisager. Et donc, je me mets à écrire et c'est très compliqué. J'écris d'abord de manière très abrupte et quand je me relis, je détruis tout et je fais marche arrière, je mets ça de côté, j'attends et puis l'éditeur me réinvite à y retourner, etc. Et ça prend plus de 2 ans parce que c'est une entreprise très, voilà, très compliquée de tout mettre sur la table et puis ce que j'avais écrit, le premier jet était bien bien plus impudique.
Ah, d'accord.
Et j'ai pas supporté de me relire dans ces mots-là, dans ces phrases-là et ça m'a sauté aux yeux, ça m'a voilà. Finalement, je pense que j'ai réussi à trouver mon chemin au fil de l'écriture.
Vous parlez de votre tante, de votre mère et vous parlez aussi de votre fille. Et dans le livre, il y a quelque chose qui m'a un peu secoué, c'est que on a l'impression que vous obligez votre fille à aimer votre grand-mère. Est-ce que j'ai employé un mot trop fort ? Obligé.
Écoutez, je l'incite effectivement, je l'incite fortement. J'ai tendance à penser, mais je me trompe peut-être, hein, je ne détiens pas la vérité absolue et bien loin de moi l'idée de donner des leçons quelles qu'elles soient. Il me semble que les anciens, nos aînés, sont quand même les fondations d'un édifice. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai grandi, avec cette force-là. Ça m'a donné des racines, ça m'a donné une grande richesse, ça me nourrit quotidiennement. Et il est vrai que, peut-être très égoïstement, je me suis dit que quand ma fille allait arriver dans ma vie, enfin, cet enfant que j'aime infiniment, qui est mon soleil, je me suis dit quelque part que ça pouvait prolonger la vie de ma grand-mère. Et ça peut paraître totalement effectivement égoïste, mais j'aimais l'idée de cette intergénérationnalité, j'aimais l'idée qu'il puisse y avoir un lien entre elles deux et de voir à la fois la curiosité d'un petit enfant vis-à-vis d'une personne du grand âge avec ses cheveux blancs, à la fois cette douceur, etc. Et j'aimais l'idée de voir ma mamie revitalisée avec un bain de jouvence comme ça, pleinement, parce que ce petit enfant tendre et joyeux et juste naïf et voilà. Alors oui, si vous avez envie de le traduire comme ça, faites-le comme ça. Moi, j'ai pas le sentiment d'avoir forcé.
Un peu quand même. Il y a dans le livre l'histoire que vous dites que vous étiez dans la voiture avec votre fille et vous l'avez un peu grondée parce qu'elle n'a pas été gentille avec sa mamie.
Oui, ça, mais ça c'est encore autre chose. Parce que voilà, être irrespectueux ou être ou être un peu négligent, ou être avec des anciens. Moi, c'est quelque chose qui reste pour moi. Voilà, c'est, mes valeurs sont à l'opposé. Mmh. Et voilà, maintenant, c'est une petite fille, Faustine, qui est une petite fille très joyeuse, qui a toutes ses copines, avec qui joue au Barbie continuellement, etc. Et qui me semble être un enfant très équilibré et qui n'a pas été forcé, contraint, etc. Et je pense que ce lien, il est pour elle très important. Et je suis pas sûre que c'est, je pense pas que ça lui pèse, mais peut-être aura-t-elle besoin d'une thérapie. Je vous appellerai dans 25 ans, on en parlera.
On en parlera dans 25 ans, si Dieu veut. Votre, alors, il y a quelque chose qui est très, très marrant dans le livre, c'est qu'on a l'impression que vous êtes plus angoissée que votre grand-mère à l'idée de la perdre. Et surtout, vous vous posez la question de savoir comment vous allez la prendre. Est-ce que vous allez voir par terre, on va vous donner un coup de téléphone? Comment ça va se passer? Est-ce que cette angoisse-là, elle vous étreint tout le temps?
Oui. Oui, là, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. Cette angoisse-là, elle est là, elle est permanente. Elle est, et puis, je pense qu'elle est, pour le coup, voyez, elle est autant chez elle que chez moi. Hein, parce que elle a très, très peur de... Elle a très très peur de me laisser. Elle sait exactement ce qu'elle représente pour moi. Elle sait exactement ce que pourrait être ma détresse le jour où. Et elle est très angoissée de ça. D'ailleurs,
elle est plus angoissée pour vous que vous l'êtes pour elle.
Ouais, je pense. D'accord. Je pense que oui. Je pense qu'elle sait. Elle sait ce qu'elle représente pour moi. Elle le sait parce qu'on se le dit. Elle le sait parce qu'on échange quand même sur le sujet. Mmh. Et souvent, elle me dit, ma chérie, ma Nata, arrête, je t'en supplie. Il faut que tu penses à toi. Enfin voilà. Elle a de cesse de le répéter, bien sûr. Mmh.
Alors, il y a quand même dans le livre la fin du livre qui est aussi très intéressante parce que ça rejoint un peu l'actualité, c'est notamment la place des aînés dans les EHPAD ou dans les hôpitaux, tout simplement. Votre mamie a dû être hospitalisée au moment où il ne fallait pas pendant la crise du Covid. Ça aussi, vous pensez que dans le service hospitalier, on a une difficulté à s'occuper des personnes âgées?
Écoutez, y a plusieurs choses dans votre question. Y a d'abord le fait qu'on a été dans cette crise pris court, hein, un peu comme la canicule en 2003, en tout cas nos dirigeants. Donc on a fait en sorte de surprotéger à ce moment-là nos aînés. Ça a été une sorte d'excès de paternalisme puisqu'on les a verrouillés dans les EHPAD, interdits de voir leur famille, interdits de voir leurs enfants, etc., etc. Je ne vais pas vous refaire le film. Donc il y a eu une forme comme ça d'excès de paternalisme où c'est comme si ces personnes-là n'avaient plus de discernement, n'étaient plus en capacité de savoir ce qui était bien ou pas pour elles. Or, l'isolement, c'est certainement ce qui tue beaucoup plus les personnes âgées que la Covid. En tout cas, quand on aura vraiment, et peut-être qu'on aura une commission d'enquête qui permettra de faire la lumière là-dessus, on verra en tout cas qu'il y a une grande proportion de seniors qui s'est laissé glisser, comme on dit, c'est le syndrome du glissement, la dénutrition, et puis tout ce qui va avec quand on est très isolé. Donc voilà. Après, il faut savoir plusieurs choses, c'est que on est dans une société du jeunisme, appelons un chat un chat, où tout ce qui est productivité, rentabilité, jeunesse, activité, hyperactivité fonctionne bien, et ça a un très bel écho. Tout ce qui est vieillesse, senior, difficulté, même aidant, parce qu'on est concentré sur autre chose que uniquement son travail, etc. Mmh. C'est un poids pour la société, mais ça date pas d'hier. Vous savez, Simone de Beauvoir l'écrivait déjà dans son essai La vieillesse, était en 1970, hein, ça fait 50 ans, un demi-siècle. Elle l'écrivait déjà, cette vieillesse que je ne saurais voir, cette conspiration du silence autour des vieux. Elle le nommait comme ça, donc j'ai rien inventé. Et je pense qu'effectivement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un moment où le basculement démographique est largement enclenché. Demain, en 2030, un tiers de la population aura plus de 60 ans. Donc il faut faire face et il faut prévoir ça. Or, on le prévoit très mal, très peu, très faiblement. Et pour s'occuper de ces anciens, il faudra aussi des aidants, non pas que des aidants familiaux, mais des aidants professionnels. Tous ces métiers du care qui sont très peu valorisés, qui sont mésestimés, ces auxiliaires de vie qui nous permettent et qui permettent peut-être à nos parents de vivre chez eux durablement.
Alors justement, voilà. Parce que le temps tourne, il y a une question qu'on vous a posée 100 millions de fois et que je vais vous poser aussi parce que c'est intéressant. Pourquoi avez-vous obstinément refusé de mettre votre grand-mère Rosine en EHPAD ou en maison spécialisée?
Parce qu'on a un échange avec elle qui intellectuellement nous permet d'avoir toujours ce lien très fort. Et que quand on est dans cet amour et dans ce lien et dans cette grande complicité, je vois pas comment on peut dire à la personne, bah voilà, on va te placer, on est avec toi quotidiennement depuis notre premier.
Mais justement, c'est pas un peu égoïste ?
Bah non, elle, si vous voulez, on l'écoute, hein, on dialogue, ouais. C'est ce que je vous dis. On
oui, mais ça, avec elle. Ça, on se dit bon, on... oui.
On entend ce qu'elle nous dit, on entend aussi ses désirs, on est en face d'une personne qui a toute sa tête.
D'accord.
Et c'est là où, si vous voulez, les choses, elles font sens aussi. Quand on est en face de quelqu'un qui a ce discernement et qui sait aussi ce qu'elle est, ce qu'elle veut, et elle, ce qu'elle veut, c'est être avec nous, c'est être avec ses proches. On respecte, un, sa volonté, deux, on respecte aussi la relation qu'on a avec elle, et ça aurait été ce serait de la trahison, compte tenu de tout l'amour qu'elle nous donne et qu'elle nous a donné. Et qu'elle nous donne quotidiennement, ce serait de la trahison qu'aujourd'hui lui tourner le dos et la placer et la mettre entre les mains d'individus qui ne sont pas les siens.
Nathalie Lévy, Courage au cœur et Sac à dos aux éditions du Rocher.
Sac au dos.
Autant pour moi. Ça c'est une phrase que disait souvent votre grand-mère pour.
Que m'a dit ma mamie, qui est empruntée, parce qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient. Ouais. C'est emprunté d'un chant patriotique, 1879.
D'accord. On va revenir un peu sur Nathalie Lévy, journaliste. Vous faites quoi aujourd'hui, puisque vous n'êtes plus à Europe 1, vous avez une autre, mis à part la promotion de ce livre qui vous emmené un peu partout, sur tous les plateaux.
Ça vous a... Oui, écoutez, il a trouvé un joli accueil, donc tant mieux.
Oui.
C'est que c'est quand même très universel et que ça doit parler à pas mal de gens.
Exactement.
Écoutez, je suis sur un deuxième.
Ah.
Et puis je suis sur deux choses dont je peux pas complètement parler, mais de la fiction et du programme.
Il y a un retour à la télévision prévu ?
Ouais, il y a un retour à la télé.
Sur BFM.
Pas du tout d'informations, surtout pas, et pas en chaîne info, non,
d'accord.
Pas du tout.
Donc on peut avoir une chaîne éventuellement pour...
Pas du tout.
Non. D'accord. On vous poussera pas à nous donner...
Vous le saurez.
On vous réinvitera pour en parler si vous voulez bien. Voilà, notre invitée Nathalie Lévy, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec vous. On souhaite une longue vie en bonne santé à votre mamie Rosine.
Merci.
Et à vous aussi. Merci beaucoup.
Merci. Bonne journée. Merci à vos auditeurs. À bientôt.
Au revoir.